Dans le cadre de ce séminaire, donc Introduction à la psychanalyse, où on travaille les textes de Freud, c'est des présentations des textes de Freud. Aujourd'hui, je vais vous présenter un texte qui est tiré du recueil La technique psychanalytique. Ce texte s'appelle Le début du traitement. Et ce texte, en fait, a été publié en 1913, où Rabelou, juste avant, il y a un autre texte qui s'appelle « Conseil aux médecins », qui a été publié en 1912. Donc « Conseil aux médecins » et « Le début du traitement », ce sont les deux textes dans lesquels Freud présente l'essentiel de sa technique psychanalytique. C'est-à-dire quels sont les éléments à dire, à faire, à mettre en place avec le patient au début de la cure. Alors, ce qui est important, c'est que ces textes vraiment contiennent l'essentiel de ce qu'il a laissé de la technique. Et ce qu'il a laissé dans ses textes de sa technique, c'est issu de sa pratique à lui, mais de ses erreurs, de ce que lui ont appris les patients, de ce qu'il a mis en place pour lui-même, parce que au fur et à mesure, il l'a modifié. Donc c'est très en lien avec les patients et les patientes de Freud, et à la fois de ses réussites et de ses échecs. D'ailleurs, il dit... Ce que je vais vous dire ici me convient à moi. Il dit ça me convient et c'est comme ça que moi je peux pratiquer, mais il dit en même temps que les autres analystes, ce qu'il appelle médecins à l'époque, devraient aussi faire. Donc il est entre, c'est à la fois ce qui me correspond le mieux, mais en même temps vous devriez suivre les choses. Bon, mais il en donne des explications et des raisons. Alors, ce qui est intéressant aussi, avant de commencer le texte, c'est qu'en 1914 et 2026, c'est-à-dire plus d'un siècle de pratique, on se rend compte, en lisant ces textes-là, que ça n'a pas tellement changé. Donc, si on revient à 1913, on se dit que c'était incroyablement nouveau, intelligent, c'est incroyable qu'il ait pu mettre en place énoncer autant de directives cliniques quand on sait qu'aujourd'hui, elles sont encore valables. Voilà, peu de choses ont changé. Cela dit, on les dit autrement, la pratique clinique s'est élargie, mais quand même, c'est vraiment des règles fondatrices de la psychanalyse. Donc, quelles sont les règles, dit Freud, qui s'appliquent à la pratique analytique en début de traitement? Alors, je pense que, comme il y en a un certain nombre, chacune mériterait presque qu'on s'y arrête pour essayer de l'entendre à la mesure de notre pratique aujourd'hui. Il dit aussi, parce que Freud fait très attention à quand il écrit, il dit aussi que c'est valable pour lui. Mais étant donné la grande variété des patients, de leur processus psychique, de leur résistance, etc., ce n'est pas non plus une mécanique, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place et qu'on ne bouge pas. Ça peut bouger et en fonction des patients, on peut appliquer autrement les choses. Donc déjà, il avait pressenti l'idée que il faudrait peut-être... que ce sont des directives, on pourrait dire, en mouvement. Voilà. Alors, le premier conseil, la première chose avec laquelle il commence, ce sont les séances préliminaires. Alors déjà, aujourd'hui encore, il n'y a pas vraiment, on parle souvent des séances préliminaires. C'est-à-dire, est-ce que on engage tout de suite un patient qui vient nous voir? Même si on pense que c'est un patient qui serait un candidat à la psychanalyse, est-ce qu'on a besoin ou pas de parler des séances préliminaires, c'est-à-dire de ces premières séances pour évaluer un peu, on pourrait dire, alors comme le dit Freud, l'aptitude du patient pour l'analyse. Alors je crois qu'aujourd'hui on le dirait un peu différemment. Donc qu'est-ce que dit Freud? Il dit, voilà, l'analyse, elle se fait en deux temps. Le premier temps, une courte période qui vise par précaution à déterminer l'aptitude du patient pour l'analyse. Puis, l'engagement dans la cure à proprement parler. Et dans l'engagement dans la cure, c'est-à-dire le temps, l'argent, le divan, le transfert, etc. Alors, sachant que Freud recevait ses patients tous les jours, sauf le samedi dimanche, ou bien trois fois par semaine quand l'analyse était bien engagée, il considérait que deux semaines étaient pour lui les séances préliminaires, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui une dizaine de séances à peu près. Voilà. Alors, il dit que c'est pour mieux connaître le patient et décider s'il se prête ou non à une psychanalyse. Alors, je me suis demandé aujourd'hui comment on dirait les choses, parce que les séances préliminaires, c'est des séances que l'on peut tout à fait mettre en place, que l'on met souvent en place d'ailleurs. Ben, on dirait par exemple aujourd'hui, peut-être c'est, plutôt que de savoir si le patient est analysable ou pas, c'est de se dire, évaluer son désir d'analyse. Où il en est? Est-ce que vraiment il y a un désir fort d'analyse? Évaluer le désir de l'analyste. Est-ce qu'il me convoque? Est-ce que ça me donne envie de travailler avec lui? Qu'est-ce qui me mobilise en moi en tant qu'analyste? Mais aussi, il y a quand même une visée, ce que Freud appelle diagnostique, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt dans le cas de, voilà, d'une problématique névrotique, d'une problématique psychotique, où on en est, est-ce que, voilà. Donc il y a aussi sentir un peu comment le transfert et comment le lien se met en place avec le patient. Donc on dirait que ça, aujourd'hui on pourrait dire que ça sert à ça, au fond, les séances préliminaires, voilà, des séances de rencontre, on pourrait dire, bien sûr entre deux personnes, parce que c'est le cas, mais aussi entre deux psychés, celle de l'analyste et celle du patient. Voilà, donc on essaye d'évaluer un peu le lien. Cela dit, Freud rajoute, cet essai préliminaire constitue dès le début une analyse. Et il doit se conformer aux règles qu'il régisse. Donc pour lui, on n'est pas en dehors de l'analyse déjà, mais on n'est pas non plus complètement dans l'analyse. Il dit la seule différence, c'est que le psychanalyste laisse surtout parler le patient sans commenter ses dires. Donc pour Freud, il s'agit de laisser parler le patient, une manière d'en apprendre de lui. Voilà. Et d'ailleurs, il dit, après tout, au début de la rencontre de patient avec l'analyste, en fait, le patient a déjà du transfert pour l'analyste. Il a déjà pensé à qui, il a déjà pris le téléphone et appelé rendez-vous. Donc, il y a déjà du transfert sur la personne de l'analyste. Et il dit, mais on ne sait pas avec quel type de transfert il vient. En fait, lui, il le sait, mais nous, on ne le sait pas. D'abord parce qu'on ne le connaît pas, et deuxièmement parce qu'il arrive avec déjà quelque chose qui l'a transféré sur vous. Donc, il dit déjà, au moins, ça sert à ça, à essayer d'avoir une idée sur des premiers transferts. Et il parle de ces séances préliminaires en disant, une formule que j'ai beaucoup aimée, faire comme si cela avait commencé pour voir si c'est possible. Comme si, mais pour voir si c'est possible. Donc on est entre les deux. Mais comme Freud était surtout intéressé et a beaucoup travaillé avec des patients névrotiques, la névrose, c'est ça l'origine de la psychanalyse, on pourrait dire, il dit aussi, il s'agit donc de voir si le patient est ouvert à la névrose de transfert, c'est-à-dire à être en lien avec l'analyste, car c'est bien le transfert qui permet la cure. Donc voilà pour les séances préliminaires qui sont pour Freud, voilà, de faire comme si on avait commencé pour voir si c'est possible. Alors j'ai trouvé une formule de Maud Manoni, qui est une psychanalyste qui a beaucoup travaillé avec les enfants, mais aussi les adultes, et beaucoup dans patients psychotiques, mais pas seulement. Elle dit, à propos de ses premiers rendez-vous, elle dit, en fait, c'est pour elle, ce serait pour essayer d'entendre comment le patient fait la rencontre avec lui-même, un soi-même, comme elle dit, un soi-même qui cherche à sortir de sa fausseté. C'est-à-dire qu'au fond, quand on arrive, on arrive avec toutes nos résistances, nos croyances, notre souffrance et nos difficultés. Mais quand on va en analyse, c'est un peu pour se dévoiler à soi-même aussi sa vérité. Donc sortir de sa fausseté. Donc pour elle, c'est une manière de voir à quel point le patient peut déjà aller vers plus de vérité en parlant de lui-même. Donc voilà, il insiste sur le fait que le patient, en début de traitement, a une longueur d'avance sur l'analyste. Il se connaît, il vient déjà avec un transfert, ce qu'il dira plus tard, une attente croyante, il vient avec beaucoup d'attentes, il a déjà mis en place un certain lien avec l'analyste, et il le met déjà en position de sujet supposé savoir, mais l'analyste n'en sait pas grand-chose. Voilà pour ce qu'il en est de la manière avec laquelle Freud parle de ses séances préliminaires. Je pense que si vous voulez qu'on peut m'interrompre à n'importe quel moment, comme ça on peut discuter les points qu'il va énoncer. Alors, il dit aussi, méfiez-vous des patients qui retardent le début du traitement. L'expérience montre que s'ils ne se présentent pas ou qu'ils souhaitent retarder le délai, il dit pour un jeune analyste, même si les raisons sont rationnelles et justifiées, il y voit déjà de la résistance. Et il dit, cela traduit un désir d'analyse qui est à discuter. C'est-à-dire que si un patient vient en disant, voilà, je voudrais commencer, etc., il fait une séance, après il dit, ah oui, mais il faudrait que je commence en avril, parce que pour l'instant, j'ai ma belle-mère qui est à la maison et que je n'ai pas le temps, etc. On peut se demander si vraiment... Bien sûr, c'est de la résistance, mais... Alors, je me souviens que... il y avait dans une conférence un analyste qui disait cette chose qui m'est restée. Il dit, dans ces cas-là, ce que je dis aux patients, bon, très bien, nous sommes, par exemple, le 30 janvier... Vous me dites qu'en avril, vous pourrez commencer votre analyse. Mais écoutez, ce ne sera pas possible en avril, mais appelez-moi le 15 juin à 15h. Pas mal. 15 juin à 15h. Si le téléphone sonne le 15 juin à 15h, ça veut dire que quand même, non seulement il n'a pas oublié, mais que vraiment il a attendu tout ce temps. Si le 15 juin à 15h, c'est passé dans les oubliettes, alors la question ne se pose plus. Voilà. Donc je trouvais que c'était intéressant de renvoyer comme ça le patient à une date très précise et à une heure précise. Alors, très intéressant aussi, en ce qui concerne les patients adressés, et ça vraiment c'est d'une actualité toujours aussi vive, en ce qui concerne les patients adressés par des amis ou la famille. Ou alors, quand on doit traiter la femme de l'enfant d'un ami, il dit on doit s'attendre à ce que le traitement, quelle que soit l'issue du traitement, qu'il soit bon, enfin que ce soit une bonne analyse, voilà. Donc, le traitement coûte à l'analyste cette amitié. C'est assez... D'abord, ça s'entend très bien, exactement. Mais aussi parce qu'il... Alors, il dit, voilà pourquoi. Parce que quand on dit, ah oui, mais vraiment, je te conseille d'aller voir quelqu'un, c'est quelqu'un de très bien, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer d'abord que le patient va arriver avec une attente, une confiance qui Et le fait de l'analyse, c'est-à-dire le cours de l'analyse fait qu'il ne peut être que déçu, parce que les résistances seront là pour lui dire, ah bah finalement, et pas si ceci, pas si cela, et puis ça n'avance pas, et puis ça coûte cher, etc. Donc il va y avoir une déception, il va peut-être se retourner vers la personne en disant, tu sais, ça ne marche pas très bien, etc. Donc de toute façon, il va y avoir, il dit, il faut compter que ça coûte à l'analyste l'amitié de cette personne. Donc soit il décide qu'il prend ce risque, et qu'il risque de sacrifier cette amitié, soit à ce moment-là, il vaut mieux qu'il l'adresse à quelqu'un d'autre, bien sûr digne de confiance.
Je l'ai entendu que sacrifier cette amitié dans le sens où, pendant le temps de l'analyse, qu'il n'y ait pas cette amitié-là, qu'il n'y ait pas qu'il ne maintienne pas
Un lien
un lien
d'amitié?
d'amitié pendant le temps de la cure.
Une autre manière, effectivement, je ne l'ai pas entendu comme ça, mais effectivement, c'est
Il y
tout
a
à
ça
fait.
aussi.
Il y a ça aussi. Ça, donc, tu sacrifies en fait quand même quelque chose de l'amitié, effectivement.
Moi, j'ai une question par rapport à la résistance en soi. Pourquoi la psychanalyse conçoit cette résistance comme, c'est-à-dire, comment on sait si le patient il est vraiment dans une résistance réelle ou c'était juste, il a quelque chose d'autre ou bien. Pourquoi la psychanalyse se positionne comme ça par rapport au patient? Ça veut dire s'il n'y adhère pas, c'est qu'il n'est pas prêt à la thérapie. C'est une certaine verticalité par rapport un peu, par rapport à d'autres thérapies peut-être.
Peut-être que puisque vous dites que c'est par rapport à d'autres thérapies, on pourrait dire que la psychanalyse, ce qu'elle cherche à faire, c'est de lutter contre ce qu'on pourrait appeler le refoulement, pour être dans cette zone freudienne. Or, quand on a passé une vie, par exemple, à refouler des choses qui ont été douloureuses, etc., c'est une manière, on pose des défenses, on se défend, donc on pose des résistances. Elles sont extrêmement fortes, ces résistances, parce qu'elles, en fait, elles protègent la personne, elles protègent contre le retour de choses douloureuses. Donc le patient, il va pas lâcher ses résistances comme ça. Il n'a pas, il n'a, il y a une part de lui très importante qui n'a pas envie de revenir qui va contre ce travail, on pourrait dire. Donc finalement, pour Freud, et pour nous d'ailleurs, on pourrait dire que toute la psyché de la personne va tout essayer, tout employer pour ne pas se souvenir et pour aller contre le travail de levée de refoulement. Donc il faut rester attentif à ce que tout peut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que le patient, il va. La névrose, il dit d'ailleurs, la puissance de la névrose est abyssale. Elle est très, très importante. Donc, tout est possible. Alors, ça ne veut pas dire, je ne sais pas.
J'allais dire ce que vous appelez verticalité, peut-être comme le dit le texte, comme le dit Freud. L'analyse commence du moment où il y a une demande, enfin, où on appelle, on dit je veux venir vous voir. Donc à partir de ce moment, on peut pas ne pas faire attention à quelque chose. C'est-à-dire tu fais une demande et puis tu dis ce sera plus tard. Ça s'entend. Ça se laisse entendre.
Voilà, pour le monsieur qui vient et qui dit qu'il n'a plus le temps de revenir, qu'il va peut-être venir en avril, pourquoi il vient alors? En fait, il y a souffrance, il vient,
Bien sûr.
il demande rendez-vous chez un analyste.
Voilà.
Oui.
Il vient et puis il n'a plus le temps.
Ben oui.
Qu'est-ce que...
Ben, il y a toute l'ambivalence. C'est pas facile d'aller. D'abord, n'oublions pas que c'est très difficile de prendre le téléphone et de dire je veux prendre rendez-vous. Il y a tout un. Et ça peut prendre parfois des années pour dire. Et de supporter sa névrose ou sa souffrance ou son symptôme avant de dire bon, je ne peux plus faire avec ça et je vais demander de l'aide. Déjà, téléphoner, on sait vers quoi on va vers un dévoilement de ses difficultés. Donc. Voilà, donc la question de la verticalité, je ne sais pas comment vous l'entendez.
Dans le sens, elle est où la flexibilité psychique
Ah.
de l'analyste en soi? Et pourquoi cette posture paternaliste, si tout ce qui va renvoyer le patient, c'est de la résistance, s'il accepte pas. Elle est où ma place pour que ce patient, s'il demande de l'aide, moi je tends ma main pour lui et comment l'aider à venir dans cet espace thérapeutique, en fait. C'est ça, je suis partie de cette idée-là.
Vous avez raison, parce que ce qu'il est en train de dire, Freud, en mettant en avant la direction de la cure, si vous voulez, il dit, si on commence, voilà, il le dit après, si on commence, je veux dire, Freud est dans une responsabilité par rapport à ses patients. Ça ne vient pas d'un paternalisme. Il a un patient qui souffre, il vient, la psychanalyse qui est son outil de travail, et il se sent responsable par rapport à ça. Donc il dit, de la même manière, là je le dis un peu différemment, qu'un chirurgien, eh bien, il ne va pas laisser la porte ouverte à ce que des gens rentrent et sortent parce qu'il y a des risques de microbes. Eh bien, la psychanalyse aussi, elle a ses règles. Voilà. Et donc ce n'est pas une rigidité paternaliste. C'est une responsabilité de l'analyste vis-à-vis de son patient. Voilà. Donc,
ajouter un thérapeute.
Bien sûr.
Même nous, les psys, même nous, on est tous les deux psychiatres, médecins, même quand on voit quelqu'un, on peut lui donner rendez-vous parce qu'on voit qu'il souffre et qu'on a fait un diagnostic, on a conçu un traitement, mais après, on ne peut pas l'obliger à revenir. Et d'ailleurs, on n'est pas tout puissant. Mm-hmm. On n'est pas tout puissant. Et encore moins l'analyste. C'est-à-dire, si la demande vient du patient pour l'analyste. C'est pas parce qu'il faut qu'il prenne son temps et qu'il, quand il se sent prêt à affronter sa névrose ou autre, il faut qu'il vienne. C'est à lui de venir. On ne peut pas aller chercher chez lui.
Oui,
surtout
oui.
Que le chemin après est long.
Et long,
après, on
est difficile.
Va s'engager avec lui. Et après, ça va être...
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas... Les résistances du patient et puis le chemin qu'il va traverser, ce n'est pas un chemin de rose, c'est un chemin difficile. Donc, il faut que le désir soit fort. Il faut qu'il soit... Il y a une alliance thérapeutique avec le patient, avec l'analyste. Donc, voilà. Donc, quand il dit « faites attention parce que... » Il le dit d'ailleurs dans ce texte, il dit une chose intéressante, il dit que si on commence à dire au patient « Ah, vous êtes allô, je suis enrhumé, donc je ne peux pas venir », on dit « Ah bah d'accord, vous êtes enrhumé », mais on est sûr d'avoir plus des défections dans les... Et ça, c'est de la résistance à aller aux séances. Mais il dit aussi que si on commence à dire au patient « Il n'est pas question, ouais, malade, pas malade, machin, etc. », les séances sont les séances. Et ben il dit à ce moment-là, de moins en moins, le patient convoquera ce genre de... Ce qu'il appelle d'ailleurs, lui, les petites maladies scolaires.
De l'écolier.
Oui, les maladies de l'écolier. Ah, j'ai de la fièvre, je ne peux pas y aller, etc. Ça, ce n'est pas possible, voilà. Mais, alors, on passe à cette question, puisque vous la posez, parce que lui la pose après. Il dit d'ailleurs... Il dit, quand un patient... demande de suspendre la cure parce que, par exemple, il va se faire opérer. Il va se faire opérer, on ne peut pas... C'est pas non plus... voilà. Et il dit, écoute, ouais, pas de problème. Il suspend la cure. Et je considère à ce moment-là que toute cette période-là, je peux prendre un autre patient jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que dans cette alliance thérapeutique dont on parle, l'analyste, quand le patient ne vient pas, il ne prend pas un autre patient. Ce n'est pas comme en psychiatrie. Cette heure appartient au patient. C'est pour ça que la séance est payée. Parce que cette heure appartient au patient. Donc, il n'y a pas de raison, si le patient ne vient pas alors que l'analyste est là, c'est que, à moins que ce soit préparé aujourd'hui à les vacances, etc., on est plus souple sur ces questions. Freud n'était pas souple du tout. Mais il dit, dans ces cas-là, ok, je suspends jusqu'à ce qu'il revienne et entre-temps, je peux prendre un autre patient. Sinon, il ne prend pas.
Il peut prendre un autre patient et l'autre, il attend...
Il attend pour revenir, son tour après.
Pour que l'analyste ne soit pas lésé, c'est ça?
Bien sûr. Et d'ailleurs, là aussi, il le dit, vous avez raison, vous êtes en train de dérouler le texte. Il le dit, effectivement. Il dit, mais attendez, moi, je travaille. Moi, je ne peux pas prendre plus de 6 patients, en cas extrême, c'est 8 patients par jour, Ben, quand on peut supposer qu'il y a 3 patients qui ne viennent pas, c'est 30%. Je gagne pas. Comment je gagne ma vie? Donc, c'est un travail.
Justement, par rapport à ça, bon, ce n'est pas spécifique à la psychanalyse en soi, mais par rapport aux psychothérapies, bon, ce qui est recommandé dans certains courants psychothérapeutiques, moi, je suis pas, j'ai pas une appartenance psychothérapeutique particulière. Je me cherche et tout. Donc, ce qui est recommandé, c'est qu'ils font un contrat thérapeutique depuis les débuts, c'est-à-dire ils définissent les nombres des séances, ils définissent tout, et ce contrat va être signé. C'est de rendre cette alliance thérapeutique contractuelle, en fait. C'est une façon de faire. Certains psychothérapeutes, ils le font.
Alors, certains psychothérapeutes le font, et Freud d'ailleurs en parle en disant, parce qu'il y a tous les patients qui viennent, disent pour la majorité d'entre eux, combien ça va durer. Et Freud dit, écoutez, quand un marcheur va d'un point à un autre et il dit combien ça va me prendre de temps d'aller d'un tel point à un autre, on lui répond, ça dépend de la vitesse de ta marche. C'est la même chose pour le patient. On ne sait pas on ne sait pas comment il va réagir aux résistances, on ne sait pas comment il va avancer, on peut pas lui dire, ça va durer 10 séances. Cela dit, on va travailler l'homme au loup bientôt, et dans l'homme au loup, qui est un des patients de Freud, c'est pas l'homme au loup, c'est l'homme au rat. Il va dire à un moment donné, voilà, telle date, on arrête les séances. Mais ça, c'est pour, parce que c'est un obsession, c'est autre chose. Mais donc, on ne peut pas. Il dit, Freud dit dans ce texte, on ne peut rien promettre en réalité au patient. Ni le temps que ça va prendre, ni l'efficacité, parce qu'on ne peut pas savoir vraiment, ni autre chose que j'ai oublié mais que je vais retrouver. Donc, en fait, on ne peut pas promettre grand-chose au patient. Donc, l'alliance thérapeutique, on dit oui, ça va durer 10 séances. Mais qu'est-ce qu'on en sait, en fait? Qu'est-ce que vous savez à l'avance? Et ni le patient ni l'analyste ne sait à l'avance ce qu'il y a. Parce qu'il arrive avec un symptôme, mais il y a tout le reste qui va suivre après. Mais par contre, d'ailleurs, à ce titre, il va dire Freud dans ce texte, que le patient soit confiant ou méfiant, ça ne change rien. Voilà. Tellement la question de la névrose et de la résistance est beaucoup plus forte. Il peut être méfiant par rapport à l'analyse, ça ne le dérange pas. Parce qu'en fait, c'est négligeable quand on compare aux résistances intérieures qui protègent sa névrose. Et donc, il dit parfois, vous avez des patients qui arrivent avec une confiance aveugle dans la psychanalyse et ça ne marche pas. Et d'autres qui arrivent avec plein de questions de « Ah oui, mais Freud, c'était un ceci », qui attaque la psychanalyse, et puis « C'est quoi ces résistances ?» ou « C'est quoi ces... » Donc, en train d'attaquer la psychanalyse, et en fait, ça avance. Donc voilà, il dit « Ça importe peu, en fait, que le patient soit méfiant ou pas. La méfiance, à la limite, est à traiter comme un symptôme, pareil aux autres symptômes. » Et il dit... Et nous arrivons d'ailleurs à une des règles fondamentales de la psychanalyse. Il dit, il peut être méfiant, il peut être confiant. L'essentiel, c'est qu'il se conforme à la règle fondamentale de la psychanalyse. C'est celle de dire tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, l'association libre. Alors, il dit, cette formule, dire tout ce qui vous passe par la tête, même si cela vous est désagréable ou vous semble sans importance. On pourrait rajouter aussi, vous semble incongru par rapport, parce qu'il va parler aussi de l'analyste, du transfert et des choses qui sont difficiles à dire directement à l'analyste. Donc, mais ça, on y reviendra. Donc, voilà, l'essentiel, c'est qu'il dise tout ce qui lui vient à l'esprit. Alors, voilà, pour reprendre vos questions, Freud dit, en début de cure, analytique, on se trouve en présence de deux questions importantes. Le temps et l'argent. En ce qui concerne le temps, il estime qu'il convient absolument de fixer une heure déterminée. Chacun de mes patients se voit attribuer une heure disponible de ma journée de travail. Cette heure lui appartient. Elle est portée à son compte, même s'il n'en fait pas usage. Il peut ne pas venir. Mais c'est à lui. Les impossibilités, au début occasionnelles, se font de plus en plus nombreuses. Plus le travail avance, plus plus les résistances pour ne pas céder au refoulement, à la levée de refoulement, sont importantes. Et il dit, ça menace le travail psychanalytique. Tout ça, Freud a une seule idée, c'est que le travail se fasse. Et il dit, mais s'il ne vient pas, eh bien, ces maladies de l'écolier vont menacer le travail analytique. À l'inverse, quand cette convention est strictement respectée, eh bien, le patient, finalement, il va se rendre compte que les empêchements, ça ne sert à rien de les dire, et il vaut mieux venir à sa séance. Voilà, elles vont se faire de plus en plus rares. Il rajoute, le paiement de la séance manquée est d'une importance capitale. Alors, c'est pas si on essaye de réfléchir aujourd'hui à notre travail. Le paiement de la séance manquée est d'une importance capitale, oui, quand nous avons des patients... voilà, des obsessionnels, de structures un peu névrotiques. Mais la clinique a un peu changé. L'environnement a un peu changé. Et on pourrait dire qu'il y a des moments où certains patients, à certains moments de leur cure, ont besoin que l'analyste, peut-être, leur passe cette séance manquée. Il y a des patients, par exemple, si on prend un patient qui est dans un, je vais vraiment inventer, hein, un transfert maternel, qu'il a une dimension, par exemple, abandonnique, par exemple, hein, et là, voilà. Et bien, dans cette séance manquée, où il ne va pas venir, alors soit on est rigide et on va lui dire oui, tu payes ta séance manquée, mais peut-être que cette séance manquée pour lui, c'est une manière fantasmatique, inconsciente, peut-être de voir dans quelle mesure il a convoqué votre angoisse, parce qu'en ne venant pas, il est abandonné. Enfin, donc il y a cette dimension d'abandon qui se joue. Peut-être que de ne pas lui faire payer, c'est l'accueillir autrement que simplement dans une dimension de... Il a besoin de sentir une présence qui n'est pas contractuelle seulement. Voilà. Donc, et puis bon, quand on a des adolescents, une séance manquée, c'est une séance payée, parfois ils ne comprennent pas. Maman n'a pas payé. Oui, ils ne reviennent pas. Ou bien quand c'est ses parents qui payent, qu'est-ce qu'on peut... il n'a pas été accompagné, ou là, il n'a pas trouvé de taxi. Tout est possible. Alors bon, ça n'empêche à l'analyste de penser ce manque de la séance comme une résistance. Ça n'empêche pas, mais il ne va pas nécessairement lui faire payer la séance. Mais il doit l'entendre quand même comme une difficulté. Mais je me souviens qu'il y avait il devait avoir 9 ans, un petit garçon de 9 ans. Le papa me téléphone en me disant, écoutez, il s'est réveillé avec un torticolis incroyable. Il a du mal dormir, d'une mauvaise manière, et il ne peut pas venir, il a la tête tordue, ça lui fait très très mal, on va aller chez le kiné, il ne peut pas venir. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien, on dit d'accord, bah, écoutez, effectivement, il n'est pas venu. La séance d'après, le dessin d'après, ben, ça parlait de son torticolis d'une manière ou d'une autre, d'une impossibilité de dire quelque chose, d'impossibilité de venir. Voilà. Donc, il faut l'entendre quand même, mais on n'est pas obligé, on peut ne pas, on peut pas toujours faire payer la séance. Alors, donc à la question quelle sera la durée du traitement, il dit, je n'en sais rien, on ne peut pas le dire à l'avance, ça s'oppose d'une certaine manière à ces thérapies qui disent, ce sera à telle date. Même si peut-être que ces thérapies produisent d'autres choses, si vous voulez, mais du côté de l'inconscient, qu'est-ce qu'on peut dire, combien ça va durer? On ne peut pas, en fait. Par contre, il dit une chose que j'ai trouvée très mathématique. Dans tous les cas, il écrit, il existe une proportion entre le travail, le temps et le résultat. plus tu fais une analyse, plus tu travailles, plus tu as des résultats. Donc, les thérapies brèves, il n'y croit pas beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, il continue. À ceux qui demandent un traitement court, il répond, est-ce qu'on demande un traitement court pour une tuberculose ou pour un cancer? Soyons clairs, la psychanalyse exige du temps plus que ne le souhaite le malade. Et donc, il faut prévenir le patient des difficultés de la psychanalyse et des sacrifices qu'elle impose. Vraiment, il va loin pour vouloir convoquer chez le patient son désir d'analyse.
Voilà.
Ou pas, bien sûr. On peut donc promettre peu de choses au patient, ni la temporalité, ni la facilité, ni même le résultat. Il dit en ce qui concerne le temps, ça dépend vraiment ni du ça dépend de l'inconscient en fait, des processus inconscients, donc dont on ignore tout. Et puis un patient vient avec un symptôme, mais on sait bien qu'il y a d'autres choses qui vont être travaillées. Et voilà, donc. Alors, ensuite, il dit maintenant l'argent, le paiement des honoraires du psychanalyste. Et là, je crois qu'il y a une formule très importante que rappelle Freud, c'est que l'argent, ayant en tête par exemple un obsessionnel, l'argent, alors du côté de l'analyste, c'est un moyen de vivre, et il rajoute, et de vivre bien. Et pour l'argent, du côté du patient, il dit il faut donner, ne pas oublier le caractère érotique dans la question de l'argent. C'est-à-dire que, pourquoi je parle de l'obsessionnel, qui est, par exemple, si on prend l'obsessionnel très près de ses sous, eh bien, cet argent, il y a une dimension, d'abord l'inconscient, on sait que l'argent a une dimension érotique, pour ça qu'il y a tellement de gens qui veulent faire de l'argent, bon, pas que. Mais voilà, on peut érotiser l'argent, on peut érotiser les... Et donc, il y a une dimension sexuelle à l'argent, par exemple. Est-ce que vous avez, pour ceux qui ont une clinique, il y a des personnes qui plient en six, qui vous donnent l'argent directement ou qui vous le posent, ou... comme s'il y avait quelque chose de... Et puis, par exemple, les prostituées, on les paye. Hein, donc, le fantasme de la prostituée quand on est une analyste femme, c'est il y a peu d'hommes qui, à un moment donné de leur cure, n'ont pas ce fantasme-là de payer une femme. Donc, il y a une dimension sexuelle à l'argent. Et il dit, c'est pourquoi il faut traiter les questions d'argent et les questions sexuelles avec la même difficulté, la même hypocrisie, entre guillemets, il dit. Et donc, au médecin d'être... très, très franc et naturel. Après tout, on demande aux patients de dire, d'être naturel et d'être transparent ou le plus possible qui concerne la sexualité. Eh bien, l'analyste, il doit être très au clair avec sa relation avec l'argent, on pourrait dire. Et donc, renoncer à toute fausse honte. Oui, on prend l'argent, on est payé pour ça. Voilà. Quand un patient vous paye tous les mois, il préfère faire un virement, il aimerait évacuer la question de l'argent aussi. Y a dans ces va-et-vient et dans ces interactions sur l'argent, j'ai oublié de payer ma séance, je discute le prix, mais ça c'est possible aussi pour des raisons, en début de cure, pour des raisons de possibilité, mais... De possibilités financières, mais dans tous les cas, il dit que dans cette question d'argent, il y a du contenu érotique, il y a du contenu sexuel.
Peut-être préciser que sexuel infantile aussi, pas que la dimension érotique telle que tu l'as dit par rapport à...
Par rapport à la prostitution, mais tu as raison, absolument. La dimension infantile... Oui.
Je retiens, je ne paye pas.
Anal, absolument. D'où la question d'obsessionnel, effectivement. De même, par exemple, les cadeaux. Est-ce qu'on reçoit un cadeau ou pas quand on est... Qu'est-ce que veut dire ce cadeau? Après tout, on est payé, on n'est pas censé prendre un cadeau. Mais effectivement, ça peut être la question de la dette qui est engagée. Ça peut être aussi une dimension anale de faire un cadeau comme on fait un cadeau à maman quand on fait sur le pot. Donc un cadeau n'est jamais anodin. Encore une fois, tout ça est du côté de l'analyste et de l'acceptation ou le refus. C'est un acte analytique en fait. Si on l'accepte, on sait pourquoi, et si on le refuse, on sait pourquoi. Voilà.
Mais il ne s'agit pas d'accepter ou de refuser. C'est-à-dire que je pense que c'est important d'amener au travail la question de... C'est-à-dire on peut refuser, mais... l'accepter, le refuser dans la réalité, mais l'accueillir quand même comme une possibilité dedans, de mettre ça au travail.
Absolument, absolument. Si on refuse, c'est pas pour dire non, je ne reçois pas...
C'est la règle. Non, on ne peut pas s'arrêter sur ça.
Bien sûr, bien sûr. Tu as raison de le préciser. C'est-à-dire qu'on peut même refuser en disant... Comme tu dis, c'est comme si c'était fait, mais voilà. Ou alors le refuser vraiment, mais dire qu'est-ce que pour voilà, à amener à parler de ce cadeau. Voilà. Donc interpréter, le penser.
Ça se pose beaucoup avec les enfants, Alexis. C'est spontané. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent avec une fleur, voilà, un dessin à offrir. Bon, c'est-à-dire que c'est plus facile aussi parce qu'avec les enfants, il y a toujours une dimension symbolique. Moi, je chie avec...
une vraie...
Mais pour les enfants, très vite, ils arrivent avec des cadeaux.
Mais c'est entre autres pour ça que Dolto a mis en place le paiement symbolique des enfants. Ouais. Parce que, justement, c'est, quand un enfant vient avec un cadeau, c'est très important et c'est très bien. Ça veut dire qu'il prend en charge son analyse. Donc, il paye quelque chose. Voilà. Et que le paiement des parents ne lui suffit pas. Donc, il y a une subjectivation de son travail, on pourrait dire. Il dit bien sûr, il faut refuser de toute façon les traitements gratuits. Même lorsqu'il s'agit de confrères ou de parents. Un traitement gratuit provoque une énorme augmentation des résistances, la question de la dette, justement, et il rajoute, chez les femmes, ça peut prendre un tournant de séduction dans le transfert. Ah oui. Et chez les hommes, on observe une révolte contre l'obligation de la reconnaissance de la dette, révolte issue du complexe paternel. C'est-à-dire que, en fait, d'une certaine manière, on infantilise, on pourrait dire, le patient quand on ne prend pas. Et puis, ça veut dire aussi, comment va l'interpréter le patient Et puis, ça dégrade, il le dit aussi, le travail, c'est-à-dire, ça ne vaut rien. Et il rajoute cette phrase que je connaissais, mais qui est sortie un peu, je ne pensais pas qu'elle était dans ce texte. « Rien dans la vie n'est plus onéreux, donc n'est plus cher, que la maladie et la sottise. » Donc, il dit vraiment, prenez votre argent et il faut qu'il paye parce que c'est très cher d'être malade. C'est-à-dire, il faut payer pour ne plus être malade. Voilà. Parce que quand on est très malade, là, ça coûte. Ça coûte la vie. Donc, rien dans la vie n'est plus onéreux que la maladie et la sottise. Alors, sur la question du divan, par exemple, rapidement, il dit, moi, je ne supporte pas que l'on me regarde pendant 8 heures. Par jour ou davantage. Donc, pour que je laisse aller à mes associations libres, je ne veux pas que le patient lise sur mon visage ce qu'il peut lire ou ce qu'il peut inventer d'ailleurs. Donc, je préfère l'allonger sur le divan. C'est comme ça qu'est né le fait d'allonger un patient sur le divan et que le psychanalyste soit derrière. Et il dit, quand un patient ne veut pas s'allonger, c'est une forme de résistance. Alors là, c'est des questions. Que le regard joue un rôle important. Alors, il dit le regard joue un rôle important. Donc, il veut... Aujourd'hui, quand on reçoit des patients qui ne sont pas névrotiques, mais qui sont dans une problématique plus de questions de miroir et de difficultés narcissiques, etc., parfois, on pense que les allonger est une mauvaise idée et qu'au contraire, ce miroir qu'est l'analyste les soutient. Donc, mais là, on voit bien qu'on est dans la sphère de la névrose. Sur la règle de l'association libre, et on arrêtera là-dessus, qui est la règle fondamentale, elle est née donc, d'une des premières patientes de Freud, qui est Amy von N, et qui un jour en a eu marre, parce que Freud faisait de l'hypnose à ce moment-là, Et il lui disait, oui, mais dites-moi quand est-ce que ça s'est passé. Enfin, il lui posait des questions pour essayer de lui extirper les vers du nez. Et à un moment donné, elle lui dit, taisez-vous, laissez-moi parler. Restez tranquille, docteur Freud, pas d'hypnose aujourd'hui. Taisez-vous et laissez-moi raconter jusqu'au bout ce que j'ai à dire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Freud a dit, ah oui, mais... Et c'est là que ça a changé. Mais ça, c'est incroyable. Il a entendu. C'est, oui, mais c'est fou qu'il ait entendu qu'elle lui dise.
Il a fallu
aimer. Oui. Mais, et elle appelait ça la talking cure. Donc, laissez-moi parler. Donc, c'est quand même qu'il ait entendu qu'il fallait qu'il change et qu'il se taise. C'est quand même, j'ai trouvé ça d'un génie. Voilà. Voilà, il y a d'autres conseils. Ce texte existe ailleurs. Il dit aussi que lorsque on n'est pas médecin, et ça je crois que c'est important pour les psychiatres, et qu'on reçoit des patients en analyse, et qu'à un moment donné dans la cure, il ait besoin de médicaments, bien sûr, il faut l'envoyer à quelqu'un d'autre. Sinon, vous êtes sûr que vous ruinez votre travail, parce que la résistance, il va tout de suite ne plus vous parler que des médicaments, etc. Il va fuir le travail analytique.
Et d'ailleurs, pour les psychiatres, je pense que la période préliminaire, elle est très utile pour les psychiatres parce que aussi c'est un moment où à travers l'écoute, on prend le temps aussi de se poser. Dire je prends cette direction là ou pas.
Ou pas.
De te positionner.
De te positionner, parce que ça peut ne pas être analyse, mais je peux répondre en tant que médecin à ta demande. Et, ou alors, on vient te voir pour en tant que médecin, et qu'au fil de cette période préliminaire, il y a autre chose qui est entendue et qui peut être du coup parlée avec le patient. Donc je pense qu'elle est tout à fait utile pour les médecins pour questionner cette... avec quelle casquette
On s'avance.
On s'avance, oui, absolument.
C'est d'accord.
Donc, c'est vraiment... Ce texte, il est extrêmement actuel, en fait. Oui. Très, très actuel.
D'ailleurs, ça marche l'idée de la... D'ailleurs, Freud, quand il parle de la question de, à un moment donné, le patient a besoin d'une approche médicale, non seulement il est important de l'orienter, mais il va plus loin. Il dit, c'est important de retarder l'intervention médicale après la fin de la cure.
Ah bon?
Oui, oui. Il me semble qu'il dit ça. Il dit que, à un moment donné, si on va vers une prescription, il va y avoir une amélioration des symptômes.
Ah oui, oui, il dit ça. Oui, oui.
Et que voilà, Marthe, il ne va pas revenir. En état, au cours d'une cure analytique, il dit, tu as le conseil qu'il donne au médecin, s'il a besoin d'une intervention médicale, il ne précise pas à psychiatrique ou pas, mais Marthe a kiffé. C'est-à-dire que, je veux dire, on a un symptôme, par exemple, somatique, mais qui plonge ses racines dans l'inconscient. On retarde l'intervention médicale jusqu'à la fin de la cure. Mais lui, la cure, ça prenait quelques mois.
Je pense que Freud, encore une fois, quand on se place à l'époque de Freud, c'était essentiellement de la névrose. Ouais. Effectivement, l'obsessionnel, la névrose de conversion, l'hystérie de conversion, etc. La question pour lui, c'est surtout retarder parce qu'il s'agit d'un... d'un symptôme inconscient un matériel de travail. Mais effectivement, quand on a des patients qui suivent qui ont déjà des médicaments, etc., parfois les médicaments sont en faveur de la thérapie. Parce que tu vois, mélancolique, il ne peut rien faire s'il n'a pas un minimum de soutien médicamenteux.